temps, en tout cas pour l'instant. C'est l'heure du journal. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Sans les États-Unis, est-il possible de sauver l'accord sur le nucléaire iranien ? L'Union européenne, la Chine et la Russie veulent croire que oui, Téhéran réclame de solides garanties. Pendant ce temps, Donald Trump se félicite de la libération de 3 prisonniers américains détenus par la Corée du Nord. Il salue le geste de bonne volonté de Kim Jong-un qu'il doit rencontrer dans les semaines à venir. En France, la mobilisation des cheminots contre la réforme du ferroviaire semble faiblir. La CGT annonce un référendum auprès des salariés de la SNCF pour savoir s'ils soutiennent la réforme. Le film Don Quichotte de Terry Gilliam sera bien projeté à Cannes en clôture du festival. La justice française a rejeté la demande du producteur Paolo Branco qui s'y opposait. L'accord sur le nucléaire iranien peut-il être sauvé ? Au lendemain du retrait des États-Unis de l'accord de 2015, le gouvernement iranien veut négocier avec les 5 autres pays signataires, mais le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, prévient que l'Iran ne restera pas dans l'accord sans garantie réelle des Européens. Franck Madvon, vous êtes en ce moment à Téhéran. Si la classe politique iranienne est divisée, les Iraniens semblent plutôt attachés au compromis de 2015.
Pour répondre à Trump, les durs du régime appellent à sortir immédiatement de l'accord nucléaire. Les réformateurs, eux, derrière le président Rouhani, veulent d'abord voir si les Européens vont compenser la sortie des États-Unis du texte et le rétablissement des sanctions américaines. Ce sont eux qui recueillent le plus de suffrages au sein de la population iranienne dans les rues animées de Téhéran.
Je pense que la meilleure réaction possible a été celle de notre président hier soir. Nous ne devons pas agir comme le président Trump souhaiterait que nous agissions. Nous devons faire l'inverse de ce qu'il attend. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire.
Les Iraniens se méfient toutefois des Européens, en particulier d'Emmanuel Macron qui semble avoir cédé à Trump et durci ses positions sur l'Iran.
Macron aurait dû quitter les réunions qu'il a eues avec Trump. Il aurait pu éviter cela, ou au moins parler honnêtement au monde. Je pense que les autres pays signataires, surtout les Européens, ont échoué. Ils n'ont pas réussi à mettre suffisamment de pression à Trump pour qu'il prenne une décision honnête.
Et il pourrait être désormais trop tard. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a prévenu : il faudra de solides garanties des Européens pour espérer sauver l'accord.
Franck Madvon à Téhéran. Nous allons respecter l'accord. Nous ferons tout pour que l'Iran se tienne à ses obligations, affirme la chancelière allemande Angela Merkel. Le Royaume-Uni et la France sont sur la même ligne. Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec le président iranien Hassan Rouhani pour travailler ensemble à une mise en œuvre continue de l'accord nucléaire. Mais concrètement, le mal est déjà fait, Adrien Bossard. Pour ne parler que de la France, la décision américaine aura forcément des conséquences économiques.
Oui Aurélie, surtout que la France est le 3e partenaire commercial européen de l'Iran derrière l'Allemagne et l'Italie. Les exportations françaises représentent par exemple 1,5 milliard d'euros en ce moment, 3 fois plus qu'il y a 4 ans. Parmi les grands perdants de ce retrait américain, Airbus peut être l'entreprise française la plus impactée. Elle voit un contrat de 10 milliards de dollars s'envoler, un contrat portant sur la livraison de 98 appareils pour des compagnies iraniennes. Et Airbus va se conformer aux règles et à la décision de Donald Trump sous peine de perdre plusieurs marchés mondiaux puisqu'un nombre important de pièces installées dans les avions sont fabriquées sur le sol américain. Autre secteur bien embêté, l'automobile et notamment PSA. La direction espère que l'Union européenne trouvera une position commune pour garantir malgré tout cet accord, car PSA aura du mal à se séparer du marché iranien, marché qu'il reconquiert depuis 2016 et la levée des sanctions. Le groupe a vendu 444 000 véhicules neufs l'an dernier, personne n'a fait mieux et PSA aurait souhaité encore investir davantage avec de nouvelles usines sur place. Même chose pour Renault. D'ailleurs, à eux deux, ils détiennent 40% du marché automobile iranien. Alors maintenant, que peut faire le gouvernement français ? Il l'assure, il va tout mettre en œuvre pour protéger les intérêts des entreprises françaises. Pas en instaurant à son tour des sanctions contre les États-Unis. Non, ça n'est pas à l'ordre du jour. Mais il y a en revanche la possibilité d'un recours auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pour cela, il faut que les 28 États membres de l'Union européenne soient d'accord. C'est une piste qui est regardée de très près à Bruxelles.
Le ministre de l'économie était l'invité de Guillaume Erner ce matin sur France Culture. Bruno Le Maire a déclaré « La situation actuelle fait des États-Unis le gendarme économique de la planète et je considère que ça n'est pas une situation acceptable ». Ce rôle de gendarme économique, il est endossé dans les faits par l'OFAC, l'agence du Trésor américain qui impose les sanctions décidées par Donald Trump, un organisme méconnu, Eliège Bergel.
Méconnu en effet, mais pourtant très puissant. Voilà comment est décrit l'OFAC, le bureau du contrôle des avoirs étrangers qui dépend banc du Trésor américain. Aujourd'hui, cet organisme va appliquer les nouvelles consignes dictées par Donald Trump, comme l'interdiction pour toute entreprise de commercer avec l'Iran et les États-Unis. En cas de non-conformité, l'OFAC peut prendre des sanctions financières agressives, car cette agence gouvernementale est le bras armé du principe d'extraterritorialité du droit américain. En clair, les États-Unis peuvent traquer des malversations de n'importe quelle entreprise dans le monde, à condition que ces transactions litigieuses passent par le circuit financier américain, et donc particulièrement dans le cas de transactions en dollars. L'agence a été créée en 1950 par le président Truman pendant la guerre de Corée pour geler les avoirs chinois et nord-coréens sous juridiction américaine. Récemment, la BNP Paribas a eu maille à partir avec l'OFAC. En 2015, la banque française avait dû payer une amende record de 8 milliards d'euros aux États-Unis, et ça justement pour avoir contourné des embargos américains sur Cuba, le Soudan et surtout l'Iran. Mais l'OFAC est actuellement en sous-effectif. Son directeur John Smith a quitté son poste au début du mois et de l'avis de plusieurs spécialistes, l'agence ne pourra pas à la fois mettre en place les nouvelles réglementations qui visent l'Iran et veiller au respect des sanctions actuelles comme en Russie ou en Corée du Nord.
Juste avant de recevoir le Premier ministre israélien de passage à Moscou, Vladimir Poutine a fait part de son inquiétude après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. La déception du président russe est partagée par son homologue chinois Xi Jinping. La Chine, qui fait partie, elle aussi, des pays signataires de l'accord, appelle à agir de façon responsable, Dominique André.
Revenir dès que possible au respect de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, c'est la position de la diplomatie chinoise martelée par son porte-parole Gang Shuang. La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, grand acheteur de pétrole iranien et qui espère intégrer l'Iran dans son projet des routes de la soie, veut préserver la paix dans la région. La diplomatie chinoise s'était beaucoup impliquée dans les discussions pour parvenir à la signature. Pour l'expert chinois Chang Xiaohe de l'Université du Peuple à Pékin, la décision américaine met aussi la pression sur la Corée du Nord avant le prochain sommet Trump-Kim Jong-un.
En se désengageant de cet accord, Donald Trump signifie qu'il va être exigeant aussi avec la Corée du Nord. Mais est-ce que les Nord-Coréens vont être d'accord avec le niveau d'exigence de Trump? Ça, c'est un point d'interrogation. La Chine n'est pas d'accord avec ce retrait, car si la signature a pu se faire à l'époque, c'est aussi grâce au rôle important des Chinois qui avaient suspendu leurs importations de pétrole iranien à la demande des États-Unis. Pour les experts chinois, les États-Unis dégradent leur image de marque et leur capacité à honorer leurs signatures et leurs engagements.
La Chine poursuivra ses efforts pour préserver et appliquer l'accord, insiste le porte-parole de la diplomatie chinoise.
Dominique André, correspondante de France Culture à Pékin. À l'inverse, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont vite apporté leur soutien au retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran, grand rival régional de Riyad. Mais ils s'attendent à des contre-coups économiques et sécuritaires. Ce matin, l'Arabie Saoudite a été la cible d'une nouvelle salve de missiles balistique tiré par les rebelles houthis du Yémen, soutenu par l'Iran. Le président américain tourne le dos à l'Iran, mais tend les bras à la Corée du Nord, une politique qui lui vaut aujourd'hui une nouvelle victoire diplomatique. Trois Américains qui étaient détenus en Corée du Nord viennent d'être libérés et ils rentrent à Washington dans l'avion du secrétaire d'État Mike Pompeo, qui préparait à Pyongyang le prochain sommet entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Les précisions de Grégory Phillips à Washington.
C'est par un tweet publié à 8h30 du matin, heure de la côte Est, que Donald Trump annonce la libération de ces trois hommes. Ils sont apparemment en bonne santé, écrit le président américain, et en route pour Washington, j'irai les accueillir la nuit prochaine à leur arrivée sur la base militaire d'Andrews. Ces trois Américains étaient détenus en Corée du Nord depuis octobre 2015, pour le plus ancien, depuis un an pour les deux autres. Le premier, un pasteur, avait été condamné à 10 ans de travaux forcés pour espionnage. Les deux autres travaillaient pour une université chrétienne évangéliste à Pyongyang. Le motif de leur arrestation n'a jamais été très claire. Pour ces trois hommes, en tout cas, l'issue est positive. Elle avait été beaucoup plus dramatique pour l'étudiant américain Otto Warmbier, libéré à l'été 2017, mais dans le coma, Warmbier était rentré mourir aux États-Unis. Après la libération de ces trois hommes, en tout cas, plus rien n'empêche la tenue du sommet entre Trump et Kim Jong-un. Le président américain salue la bonne volonté affichée par le dirigeant nord-coréen et le secrétaire d'État Pompeo, dont l'avion retour évoque des discussions constructives. Cette séquence au lendemain du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et pour la Maison-Blanche la preuve que les méthodes parfois peu diplomatiques du président fonctionnent et ce qui paraissait inimaginable il y a encore quelques mois est peut-être en train de se concrétiser. Donald Trump fait savoir que ça y est, la date et le lieu de sa rencontre avec Kim Jong-un sont fixés.
En Afghanistan, Kaboul est une nouvelle fois la cible d'attaques coordonnées. Au moins 5 personnes ont été tuées dans des attaques contre des commissariats de la capitale. L'État islamique a revendiqué l'une de ces attaques dans l'ouest de Kaboul. Pour l'autre, qui a eu lieu dans le centre de la capitale, c'est moins clair, Sonia Ghezali.
La dernière explosion a retenti vers 19h heure locale dans le centre de Kaboul. Le quatrième kamikaze a été tué, a déclaré quelques minutes plus tard le ministère de l'Intérieur, annonçant la fin de l'attaque contre un commissariat du quartier central Charenau. Le commando d'insurgés avait lancé l'attaque près de 7 heures auparavant. Deux hommes armés avaient tenté de pénétrer dans les locaux avant d'être abattus par la police. Puis un kamikaze s'était fait exploser près d'une agence de voyage délivrant des visas indiens aux Afghans. Les explosions ont retenti tout au long de la journée de Kaboul. En fin de matinée, un autre commissariat dans l'ouest de la capitale a été pris pour cible. Un kamikaze s'est fait exploser devant l'entrée. On suivit des échanges de tirs entre des insurgés et les forces de police, appuyées par les forces spéciales afghanes. L'organisation État islamique a fini par revendiquer cette attaque. Les attentats, tantôt revendiqués par l'organisation État islamique, tantôt par les talibans, se multiplient, notamment dans la capitale, alors qu'en province, plusieurs districts sont tombés ces dernières 48 heures sous le contrôle des talibans. Le gouvernement afghan ne semble avoir véritablement la main que sur 30% du territoire.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI et France Culture à Kaboul. La réforme des institutions est lancée. En Conseil des ministres, Édouard Philippe a présenté un premier projet de loi qui doit, selon lui, déboucher sur une démocratie plus représentative. Il s'agit, explique le chef du gouvernement, de revenir à l'esprit originel de la Constitution de 1958. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Aujourd'hui, seul le volet constitutionnel de la réforme était présenté, mais ça coince déjà.
Ça coince, oui, en particulier du côté du Sénat, où la droite reste majoritaire. D'abord sur l'organisation du travail parlementaire, puisqu'il est prévu parmi les dispositions présentées ce matin de limiter le droit d'amendement, de limiter également la navette parlementaire entre l'Assemblée et le Sénat. Or, tout ça, explique le président du Sénat Gérard Larcher, conduit à affaiblir le rôle et le pouvoir des parlementaires. Et ça, il ne peut pas l'accepter.
Je demeure ouvert à une réforme utile à la France. Mais ce ne sera jamais au détriment des droits du Parlement et de la démocratie représentative. Et cela n'est pas négociable. Comme ça, c'est clair. C'est dit.
Gérard Larcher a également évoqué les dispositions à venir de cette réforme, celles qui n'ont pas encore été présentées et qui notamment prévoient de réduire le nombre de députés et de sénateurs. Si on en reste à la suppression d'une centaine de sénateurs, a-t-il prévenu, ça ne passera pas, pas plus que le projet d'Emmanuel Macron de renouveler intégralement le Sénat en 2021.
Le gouvernement propose, en l'état actuel du texte, de contrevenir à cette règle. Et pour cela, il modifie par 3 fois le calendrier des élections sénatoriales. Mais c'est contraire à la Constitution qui prévoit que le renouvellement est partiel. Cela, dans l'hypothèse où ceci perdurerait, ne serait pas acceptable.
Voilà, Gérard Larcher, l'impression que l'exécutif fait monter les enchères sur cette réforme des institutions et il est un petit peu en colère.
Je ne suis pas en colère, je suis déterminé. Mais si les choses ne devaient pas aboutir, la responsabilité ne sera pas ici.
Dès lors, il y a 2 solutions pour faire adopter cette réforme institutionnelle. Soit on arrive à un accord, soit c'est le peuple français qui tranche à travers un référendum. Mais ça, c'est extrêmement risqué. On l'a vu encore récemment à une toute petite échelle avec le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, qui a tenté ce coup de poker en interne avec les salariés pour essayer de se relégitimer. Résultat, il a perdu et s'est retrouvé dans l'obligation de démissionner.
Stéphane Robert, le train de réforme engagé par le gouvernement a le soutien d'une majorité silencieuse de nos concitoyens. Déclaration d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres, relayée par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Aujourd'hui, la grève à la SNCF était moins suivie que les jours précédents, avec 14,46% de grévistes. Ce soir, CGT, UNSA, Sud et CFDT discutent au siège de la CGT pour décider de la suite à donner au mouvement. Et un référendum va être organisé pour connaître la position des cheminots sur la réforme de la SNCF, Hakim Kasmi.
Avec ce référendum, les syndicats, et plus particulièrement la CGT, qui en est à l'initiative, espèrent faire pression sur le gouvernement en ralliant les salariés mécontents qui ne sont pas toujours forcément grévistes. La CGT cheminot, qui par la voix de son secrétaire général, Laurent Brun, estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sortie de crise. La direction de la SNCF indique de son côté que puisque les 3/4 des cheminots ne sont pas en grève, c'est que 75% d'entre eux soutiennent la réforme. Une analyse plutôt hasardeuse au vu de la récente consultation consultation chez Air France, qui a bien montré que le nombre de grévistes n'avait rien à voir avec le résultat définitif, qui, rappelons-le, s'est soldé par la démission de Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Air France KLM. Quant à Elisabeth Borne, elle dénonce cette initiative qu'elle qualifie d'illégitime. La ministre des Transports qui rappelle que la loi a été votée à une très forte majorité à l'Assemblée nationale. Mais cette consultation est également stratégique pour l'intersyndicale, car des divergences commencent à apparaître entre eux. L'UNSA et la CFDT, plutôt réformistes, penchent plus pour une amélioration de la loi avant son arrivée au Sénat à la fin du mois. La CFDT a déjà déposé 42 amendements, notamment sur le sac à dos social ou encore le salaire des cheminots, mais aussi leur formation. Avec ce référendum, il y aurait donc consensus, ce qui permettrait à l'intersyndicale de sortir la tête haute, du moins en apparence.
Comment améliorer la loi pour que les violences sexistes et sexuelles soient mieux prévenues et mieux jugées? Le texte qui doit être examiné à l'Assemblée à partir de lundi est actuellement examiné en commission des lois, en présence de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Antoine Marette, vous avez suivi les discussions à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Comment protéger les femmes victimes de harcèlement sur la place publique ou encore les mineurs face à des adultes prédateurs sexuels? C'est entre autres à ces questions soulevées par l'actualité récente que le projet de loi tente de répondre. Dimitri Houbron défend ce texte, il est député de La République En Marche.
C'est à la fois un texte qui regroupe beaucoup de choses mais qui est finalement assez concis puisqu'il n'y a que 4 articles. La volonté c'était de répondre aux problématiques qui ont été soulevées durant ces mois de travaux. De quelle manière protéger à la fois les mineurs victimes d'agressions sexuelles, de viols, et en même temps défendre les jeunes femmes qui n'ont plus une véritable liberté sur l'espace public.
Le texte prévoit la verbalisation du harcèlement de rue et renforce l'interdit de relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Un texte petit et mal fagoté pour Clémentine Autain, députée de la France Insoumise.
Il n'y a littéralement rien dans ce projet de loi qui permet, par exemple, de former les policiers ou les personnels de justice pour accueillir la plainte et l'accompagner juridiquement. Il n'y a rien sur le traitement des violeurs. Il n'y a encore rien sur, par exemple, les inégalités professionnelles dont on sait qu'elles favorisent les violences ou le harcèlement. Donc, au total, je dirais que ça passe à côté de son sujet.
Les Républicains sont de leur côté plus partagés sur ce projet de loi. Stéphane Viry est député LR.
Au final, on a un texte qui va dans la bonne direction sur la protection des victimes mineures. Ça permet un certain nombre d'avancées que nous allons accompagner par rapport à nos amendements et par rapport à nos votes, mais qui, sur la question du harcèlement de rue, me paraît davantage baroque comme réponse. Je ne pense pas que la version initiale de ce texte, telle qu'elle va nous être présentée la semaine prochaine dans l'hémicycle, soit à la hauteur de la réponse.
En attendant, l'examen se poursuit en commission. Seule une trentaine d'amendements sur un total de 244 ont déjà été examinés.
Soulagement pour le réalisateur Terry Gilliam. Son film Don Quichotte sera bien présenté en clôture du Festival de Cannes le 19 mai et dans les salles le même jour. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement cet après-midi après une audience en référé. L'ancien producteur de Terry Gilliam, Paolo Branco, qui était en procédure judiciaire contre le réalisateur pour une histoire de contrat résilié, voulait donc empêcher la projection du film. Sa demande a été rejetée. Tout ça pour ça, Cécile de Kervas-Doué.
Oui, tout ça pour ça. Comme s'il s'agissait là aussi de cinéma, la malédiction, semblez-vous, vouloir coller à cette affaire jusqu'au dernier moment. Avec l'AVC du réalisateur, c'était samedi soir. Et puis hier, Amazon, le distributeur américain, qui décide de lâcher ce film. Aujourd'hui, le producteur Paolo Branco, qui donne une conférence de presse avant la décision de justice du Palais de justice de Paris, pour assurer depuis Cannes que le film serait bien projeté, mais qu'il tenterait ensuite de récupérer l'argent qu'il y aurait investi. Et puis finalement, le directeur du Festival de Cannes, qui annonce la décision depuis Cannes, toujours avant les avocats du Palais de justice de Paris. Bref, on aurait voulu faire de la publicité au fameux film maudit de Terry Gilliam, on n'aurait pas fait mieux. Son avocat Benjamin Serfati.
Depuis 20 ans, ce film a failli 20 fois périr enseveli sous les obstacles. On l'a dit à maintes reprises, frappé d'une forme de malédiction. Et aujourd'hui, le sortilège est rompu grâce à la justice, en ce sens qu'elle a autorisé la projection de son film au Festival de Cannes et qu'il y avait une outrance manifeste dans la démarche de M. Branco qui a cherché à la censurer, à la faire interdire. Le juge l'a compris, la justice l'a compris, et c'est une sensation très forte de libération pour Terry Gilliam.
Alors la suite maintenant, c'est le fond de cette affaire qui oppose donc le réalisateur à son ancien producteur qui lui reproche, comme la justice, d'avoir résilié illégalement le contrat qui les liait. La décision de l'appel doit tomber le 15 juin prochain et la justice demande encore que les deux parties s'entendent, sauf que le producteur Paolo Branco demande au réalisateur et à ses comptes au Panama de lui verser avant toute discussion 3,5 millions d'euros.
Ben voyons, Cécile de Kervas-Doué. Le parquet de Strasbourg ouvre une enquête préliminaire pour faire la lumière sur le décès de Naomi Moussenga. En décembre, l'appel à l'aide de cette jeune femme de 22 ans n'avait pas été pris au sérieux par l'opératrice du SAMU. Elle s'était moquée d'elle parce que la jeune femme avait d'abord appelé la police pour faire part de ses fortes douleurs au ventre. Naomi Moussenga était morte quelques heures plus tard à l'hôpital. Pour rappel, le numéro d'appel d'urgence européen est le 112. Le temps sera très nuageux demain sur une grande partie du pays avec des averses orageuses sur la façade est. Les éclaircies reviennent sur l'ouest, mais il fera plus frais. Demain matin, les températures iront de 7 à 15 degrés. L'après-midi, 15 à 20 et jusqu'à 25 en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.